VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 18 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Visite de Goodluck Jonathan à Bamako en tant que médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Au Nigeria, plusieurs régions sont sans électricité depuis 5 jours. Guerre en Ukraine, 13 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire selon le HCR. Joe Biden s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping sur l'offensive russe en Ukraine. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est à Bamako au Mali, accompagné d'une forte délégation. Déterminer la durée de la transition et dégager un calendrier électoral sont parmi les points à l'ordre du jour de cette visite. Les Assises nationales de la refondation avaient souhaité une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, validée par la nouvelle charte de la transition. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a affirmé sur son compte Twitter avoir appelé le président de la transition malienne Assimi Goïta 24 heures avant l'arrivée de Goodluck Jonathan en terre malienne. Un collectif de personnalités influentes de Casamance où l'armée sénégalaise mène des opérations contre des rebelles indépendantistes s'est déclaré favorable à ces actions militaires pour sécuriser les populations. Le collectif des cadres casamançais est également impliqué dans les négociations de paix entre le gouvernement et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Quand quelqu'un crée une situation d'insécurité, il faut le neutraliser, a déclaré sur la radio RFM le secrétaire général du collectif Moussa Cissé. Le Nigeria est confronté à une grave crise énergétique ces dernières semaines. Le président Muhammadu Buhari a présenté ses excuses à la population face à la situation. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
L'électricité manque au Nigeria depuis le 14 mars dernier, provoquant des pertes pour de nombreux Nigériens suite aux pannes d'électricité dans la plupart des régions du territoire national. Les autorités expliquent que la panne électrique est due à une baisse de la production hydroélectrique en raison des pressions saisonnières sur les barrages et les difficultés dans les travaux de réparation des groupes électrogènes en cours. Le réseau électrique nigérian s'est effondré à 2 reprises entre lundi et mardi en moins de 48 heures. La production de l'électricité au Nigeria est jugée insuffisante pour sa population de plus de 200 millions d'habitants et dont les besoins sont estimés généralement à environ 4000 mégawatts par jour. Dans un communiqué, le président Muhammadu Buhari a présenté ses excuses à ses concitoyens et promet de résoudre la crise dans les prochains jours. Cette crise d'électricité est la pire depuis l'arrivée au pouvoir du président Buhari il y a près de 7 ans et le gouvernement est sévèrement critiqué de ne pas en faire assez pour résoudre le problème. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Selon un rapport de l'ONU, des membres du gouvernement du Soudan du Sud sont responsables de violations des droits humains, s'apparentant à des crimes de guerre dans le sud-ouest du pays. L'ONU affirme avoir identifié 142 personnes dont les actes doivent faire l'objet d'une enquête. Le rapport décrit notamment des viols, l'esclavage sexuel, des meurtres de dizaines d'enfants, dont au moins un bébé battu à mort devant sa mère. 4 réfugiés soudanais ont été entendus à Paris dans l'enquête visant BNP Paribas pour des soupçons de complicité de crimes contre l'humanité selon la FIDH. Les juges d'instruction français enquêtent sur le rôle de la Banque française au Soudan dans les années 2000, en particulier lors de la guerre civile qui a fait depuis 2003 plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés dans la province du Darfour selon l'ONU. L'organisation internationale United va financer l'introduction en Afrique du Sud et au Brésil d'un traitement préventif novateur pour le VIH. Une annonce faite ce vendredi à Genève. Ce traitement qui s'avère 80% plus efficace que celui à prise orale quotidienne pour réduire le risque d'infection nécessite 6 injections par an. Les États-Unis et l'Angleterre viennent de l'approuver, mais il n'y est pas encore disponible selon l'United.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, la ville de Mariupol fait état d'importants dégâts matériels après des bombardements russes. Mohamed Oumfan nous en dit plus.
Plus de 130 personnes ont pu être sauvées du bâtiment d'un théâtre de Mariupol, bombardé mercredi par l'armée russe, mais des centaines d'autres demeurent sous les décombres, a déclaré ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La mairie de Mariupol a signalé pour sa part que la situation était critique, avec des bombardements russes ininterrompus et des destructions colossales. Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logement de la ville a été détruit. L'armée russe a, elle, annoncé ce vendredi combattre désormais dans le centre-ville de ce port stratégique. Le président Zelensky a fustigé la lenteur des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, alors qu'il réclame des avions de combat depuis des semaines.
Plus de 3,2 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon l'ONU, qui avertit que les besoins humanitaires dans l'est du pays deviennent de plus en plus urgents, avec plus de 200 000 personnes qui n'ont pas accès à de l'eau dans la région de Donetsk. Les habitants de Mariupol et Soumy sont confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments, indique le HCR, estimant qu'environ 13 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire et de protection en Ukraine. La Chine et les États-Unis ont la responsabilité d'aider à la paix mondiale, a dit le président chinois Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden lors d'un entretien téléphonique, estimant que les relations entre États ne peuvent pas aller jusqu'à la confrontation armée. Le point avec Jean-Roger Bion.
Lors de cet entretien qui a duré près de 2 heures en visioconférence, le président américain a appelé M. Xi à prendre ses distances avec le président russe Vladimir Poutine, dont les troupes ont envahi l'Ukraine le 24 février. Pékin s'était gardé de condamner l'invasion russe et a mis la responsabilité du conflit sur le compte de l'OTAN. Réponse du président chinois rapportée par la télévision d'État, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et en tant que deux premières économies mondiales, il nous incombe non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d'assumer nos responsabilités internationales et de travailler à la paix et à la tranquillité dans le monde. Une réunion du G7 consacrée à l'invasion russe de l'Ukraine se tiendra jeudi prochain à Bruxelles, a annoncé ce vendredi le gouvernement allemand. L'OTAN organise le même jour un sommet extraordinaire consacré à la guerre en Ukraine, auquel participera Joe Biden, qui effectuera le déplacement à Bruxelles. Une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se tiendra aussi jeudi 24 mars à Bruxelles en présence du président américain.
Lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président russe Vladimir Poutine a reproché à l'Ukraine de faire traîner les pourparlers, estimant que Kiev avait des demandes non réalistes. Moscou a indiqué vouloir négocier un statut de neutralité et démilitariser. Kiev réclame de son côté la désignation de pays garant de sa sécurité et qui la défendrait militairement. Le président russe devait également avoir un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron ce vendredi. Lors d'un entretien à la BBC, la représentante des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a répondu à des questions sur l'abstention de plusieurs pays africains lors du vote de la résolution contre l'offensive russe en Ukraine. Nous devons faire un travail supplémentaire pour aider ces pays à comprendre l'impact de la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine, a-t-elle déclaré, estimant qu'il ne devrait pas y avoir de terrain neutre à ce sujet. Selon elle, c'est certainement dans leur droit de le faire, mais je pense qu'il est également juste d'en examiner l'impact sur l'ordre international, a dit Madame Thomas Greenfield, ajoutant qu'il s'agit d'une attaque de la Russie contre les valeurs fondamentales de l'ONU. Et aussi sur le front diplomatique, la Bulgarie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont annoncé l'expulsion de 20 diplomates russes en tout dans le contexte de l'agression russe en Ukraine. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Mohamedou Oumfa.
Au Cameroun, le prix de la baguette de pain de 200 grammes a augmenté de 25 francs CFA, tandis que celui du sac de farine augmente de 5000 francs CFA à la sortie de l'usine. Selon Jeune Afrique, les deux décisions gouvernementales effectives depuis le 16 mars ont été arrêtées au terme d'une concertation menée par le ministre du Commerce avec le syndicat patronal des boulangers du Cameroun et le groupement des industries meunières du Cameroun. L'officialisation de la nouvelle par le gouvernement reste toutefois attendue. Le gouvernement éthiopien a annoncé ce vendredi le report du processus de privatisation partielle de l'opérateur public Ethio Telecom en raison de récents développements et changements macroéconomiques rapides dans le monde. Le processus avait été lancé le 15 juin 2021, moins d'un mois après l'attribution à un consortium privé d'une licence devant mettre un terme au monopole d'Ethio Telecom, une entreprise 100% publique. Cette privatisation partielle et l'ouverture du secteur éthiopien des télécoms figurent parmi les réformes du Premier ministre Abiy Ahmed. Le directeur du Programme alimentaire mondial a mis en garde ce vendredi contre les effets de la crise ukrainienne sur les autres pays, notamment moins développés. Pendant que vous vous concentrez sur l'Ukraine, ne négligez pas le Sahel, la Syrie, la Jordanie, le Liban. Si vous le faites, les conséquences seront catastrophiques, a fait savoir David Bisley. Le responsable du PAM redoute une aggravation de la famine dans le monde et une migration de masse. Il a rappelé que sans sécurité alimentaire, la paix est illusoire.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pour le match aller des barrages de la Coupe du Monde face à l'Égypte. Deux absences notables, les deux premiers gardiens remplaçants, Alfred Gomis du Stade Rennais en France et Seni Dieng, blessé. Bien évidemment, les Lions de la Teranga feront avec, entre autres, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané ou encore le portier de Chelsea Edouard Mendy. Les Sénégalais, récents vainqueurs de la CAN, rencontrent les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah le 25 mars au Caire lors du match aller avant le retour le 29 mars dans la nouvelle ville de Djamnia Diop près de Dakar. Les deux équipes se sont rencontrées lors de la finale de la CAN le 6 février dernier, remportée par le Sénégal au tir au but. En Europe, les oppositions des quarts de finale de la Ligue des champions sont connues. Un an après leur affrontement en demi-finale, le champion d'Europe en titre, Chelsea, va recroiser sur sa route le recordman de victoire en C1, le Real Madrid. Le choc entre la noria offensive de Manchester City et le hérisson défensif de l'Atlético Madrid promet également une controverse d'école de football. Benfica, Lisbonne, Liverpool ou encore Villarreal, Bayern Munich complètent le tableau de ces quarts de finale programmés les 5 et 6 avril pour les matchs aller et les 12 et 13 avril pour les matchs retour. L'équipe russe demeure exclue des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 de football. Fin mars, le tribunal arbitral du sport rejette la demande de la Fédération russe de suspendre les sanctions de la FIFA. Cette décision, similaire à celle rendue mardi concernant les sanctions de l'UEFA, ne préjuge pas de la future sentence de la justice sportive sur le fond du litige, qui n'est pas attendue avant plusieurs semaines au minimum. Hôte du dernier Mondial masculin de football où ils se sont hissés jusqu'en quart de finale, les Russes devaient rencontrer les Polonais le 24 mars à Moscou. Comme décidé par la FIFA, la Pologne est donc directement qualifiée pour la finale des barrages le 29 mars face aux vainqueurs de Suède, République tchèque. Basketball, l'ailier des Pistons Sadiq Bey a éliminé le duel des mal classés entre son équipe victorieuse 134-120 et le Magic d'Orlando en inscrivant 51 points. La performance offensive de Bey est la dernière d'une série remarquable. 6 joueurs différents ont réalisé au total 8 matchs à 50 points ou plus depuis début mars, un record historique pour la NBA. Outre Bey, ces joueurs sont la star des Lakers LeBron James, 56 points contre les Warriors, l'ailier des Celtics Jason Tatum, 54 points contre les Nets, le meneur des Nets Kyrie Irving, 60 points contre Orlando, son coéquipier Kevin Durant, 53 points contre les Knicks et l'intérieur de Minnesota, Karl Anthony Towns, 60 points contre les Spurs.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le Premier ministre ivoirien Patrick Atchi a achevé hier une visite à caractère économique aux États-Unis où il a présenté le programme Vision 2030 à l'Atlantic Council et à la Banque mondiale. Une grande partie de ce programme repose sur l'implication du secteur privé. Son objectif était d'encourager les investisseurs américains à s'intéresser davantage à son pays. Lors d'un entretien avec Abdourahmane Dia, M. Atchi a notamment abordé le récent dialogue national en Côte d'Ivoire et la situation sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest.
Ce programme a été accueilli très favorablement et donc nous en étions également donc très satisfaits. Je crois qu'on est dans un pays où le secteur privé est le moteur de la croissance plus que nulle part ailleurs. Donc quand vous parlez secteur privé, vous êtes totalement en phase et sur la même longueur d'onde que les personnes avec lesquelles vous conversez. Et ce programme de Côte d'Ivoire 2030, comme vous le savez, met au cœur de la stratégie du développement le secteur privé.
La Côte d'Ivoire, d'avant la pandémie, réalisait en moyenne un taux de croissance de 8% par an. Alors pour maintenir cette croissance, la Côte d'Ivoire a bien sûr besoin de consolider la paix et maintenir un climat apaisé. Le dialogue politique vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Êtes-vous confiant que la Côte d'Ivoire a pansé les plaies des dernières violences des élections de 2020?
Oui, déjà, je pense qu'avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. Donc ça a été, je dirais, un premier grand tournant, je dirais, d'une paix sociale renforcée. Mais en plus de cela, vous en parliez, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques dialogue à l'issue duquel toutes les questions pendantes relatives aux différents sujets qui pourraient être des sujets de discorde et qui pourraient être éventuellement des freins à la cohésion sociale et à la paix, je dirais, sociale, ont été abordées, ont été discutées dans un environnement de courtoisie, dans un environnement de responsabilité, et toutes les parties prenantes ont signé, je dirais, cet accord dialogue politique, ce qui est donc une preuve de maturité où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel, le plus important, c'est le pays.
Et si vous le permettez, on va terminer par le contexte régional, monsieur le Premier ministre, avec les sanctions visant le Mali, mais également le Burkina et la Guinée qui sont suspendues par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est frontalière de tous ces trois pays. Même si ce sont des décisions de l'instance régionale, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire, vu son poids économique, politique, mais aussi sa position géographique, pour qu'on arrive à un dégel dans la région?
Ben, je crois que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, n'agit pas seule dans ce genre de circonstances. Lorsque ces crises surviennent, nous avons une organisation sous-régionale qui est la CEDEAO et qui a un président actuellement, qui est le président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, et donc qui se réunit et qui prend des positions communes et collectives sur ce qu'il y a lieu de faire pour que la situation évolue au niveau de ces pays-là. Le souci majeur, bien sûr, étant que la paix civile, je dirais, la paix revienne dans ces pays, qu'il y ait, bien sûr, un retour au pouvoir des civils dans une démocratie qui est prônée dans toute la sous-région et pour tous les pays de la sous-région.
C'était le Premier ministre ivoirien Patrick Atchi.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La presse privée tchadienne s'estime marginalisée dans le dialogue préliminaire entre le gouvernement de transition et les politico-militaires qui se déroule à Doha au Qatar. Aucun journaliste des médias indépendants du Tchad n'a pu faire le déplacement pour assurer la couverture médiatique de ces assises. Les responsables de ces médias lancent une journée sans presse samedi sur toute l'étendue du territoire national pour exprimer leur mécontentement. Un reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
Une journée sans presse initiée par les patrons des radios et télévisions privées, des promoteurs des médias électroniques appuyés par 4 organisations professionnelles des médias pour protester contre la non-participation de la presse indépendante aux assises de Doha au Qatar. Ces organisations estiment que l'avenir politique du Tchad se joue à Doha puisque cette rencontre marque une étape décisive vers la réussite du dialogue national inclusif.
Exclure la presse privée pour aller couvrir cet événement capital pour les Tchadiens, je crois que c'est de l'insulte. Quelque part, on dit la presse est le quatrième pouvoir. Mais pourquoi exclure le quatrième pouvoir dans un processus de dialogue qui concerne tout le monde?
Sonny Mekondo, président de l'Union des radios privées du Tchad. Pour lui, la presse indépendante est le baromètre de la démocratie.
Si ce n'est pas la presse privée qui donne la parole à tout le monde, est-ce qu'on va parler de la démocratie? Mais ils ont d'autres idées pour dire que non, la presse privée ne doit pas faire le déplacement. Parce que la presse privée, une fois être là-bas, va essayer de voir avec les politico-militaires pour avoir des positions diverses. Et ça risque de jouer sur leur transition.
Pour Jim Ewiche, directeur des publications du journal, à lui d'un média en ligne, la mise à l'écart de la presse indépendante dans ce pré-dialogue est injuste.
Si le gouvernement n'a pas des arrière-pensées, elle aurait dû associer la presse privée d'une manière générale pour assurer une couverture juste et indépendante. Si on ne prend pas de telles mesures préventives, on risquerait aussi d'être écarté le jour du dialogue national inclusif en mai 2022.
Le directeur des publications du journal Salam Info, Martin Inoua Doulgué, et se veut pragmatique.
La presse indépendante, elle n'est pas contre le gouvernement. Mais si aujourd'hui, on pense qu'elle est indésirable, il est temps que les journalistes disent « halte, il faut qu'on nous respecte ». Mais il y aura d'autres actions. On peut observer une semaine sans presse. Tout est possible. On pouvait boycotter la couverture d'autres activités ici au pays. Et même, pourquoi pas organiser une marche de la presse pour que notre cause soit portée au niveau national et international.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdramane Koulamala, joue à l'apaisement.
Je comprends le souci de la presse privée, le fait qu'ils interprètent très mal cette absence de Doha. Avec la prolifération des réseaux sociaux, il est plus important de permettre à la presse de diffuser la réalité des faits qui se passent là-bas. Donc, nous avons mis en place une petite coordination afin que je puisse faire les démarches pour que le reste du processus qu'ils puissent assister dans la mesure du possible.
Du côté de la justice, les magistrats observent une grève de 3 jours dans toutes les juridictions du pays. Un arrêt de travail pour protester contre l'agression physique d'un de leurs collègues en poste à Mao au centre du pays par des personnes bien connues au palais de justice de la dite localité et caillassé le véhicule du tribunal. André Kordouma Djingar, Njamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Niger, c'est encore l'émotion après l'attaque d'un bus de transport par des hommes armés dans la région de Tillaberi mercredi dernier, à la frontière avec le Burkina Faso. Une attaque qui a fait plus de 20 morts. Les blessés évacués à l'hôpital de Niamey ont reçu ce vendredi la visite des autorités. Le point dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est en compagnie de son homologue de la santé publique que le ministre de l'Intérieur Hamadou Adamou Souley est allé s'enquérir de l'état de santé des rescapés de cette attaque.
Ils étaient 4, 1 est déjà libéré, les 3 autres. Nous les avons visités et nous avons constaté que la prise en charge est correcte. Ils ont été bien accueillis, ils sont pris en charge totalement et leur pronostic vital n'est pas engagé. Donc c'est une satisfaction pour nous. Nous avons aussi, à travers cette visite, pensons pouvoir apporter un réconfort moral aux familles qui les accompagnent, les familles qui sont, on dirait, endeuillées.
Analysant le mode opératoire utilisé lors de cette attaque, le chercheur Issaka Moussi Munkela estime que les assaillants avaient un message clair à faire passer.
En brûlant le bus, c'est que c'est pour montrer leur puissance, pour montrer à l'État que l'État est défaillant, pour montrer à l'État qu'ils existent toujours. Parce qu'aujourd'hui, à un certain moment, il y a une sorte d'accalmie, mais ils reviennent avec force.
Vraiment, la situation est chaotique actuellement. Malgré les efforts qui sont déployés par les États, par les partenaires également, beaucoup reste à faire.
Comme les autres localités de la partie nigérienne de la zone des trois frontières, le département de Tera subit régulièrement les attaques des groupes armés non étatiques, une situation qui inquiète les autorités locales. Hama Mamoudou, maire de la commune rurale de Tera.
C'est la première fois que nous avons connu un bus qui a été attaqué. C'est la première fois depuis que les événements ont commencé. Ce qui devient vraiment un problème pour les populations, parce que c'est un axe très fréquenté. Par jour, nous avons 5 à 6 sociétés de bus qui vont vers le Burkina et qui reviennent également. Donc si ce cas se présente, ça veut dire que vraiment la situation devient très grave. Sinon, aujourd'hui, le département est vraiment sous pression de ces gens-là. Il y a eu un mort à la commune de Mehna, un vieux qui a été tué là-bas. Il y a eu des morts dans la zone de Dargol, au sud de Dargol, où il y a eu 4 ou 6 tués comme ça, et des gens qui ont été enlevés. Ça veut dire que vraiment, ça devient un problème pour tout le monde. Et nous savons que ces gens-là, leur opération est un peu difficile pour nos forces de l'extérieur parce que c'est des petits groupes qui sont en moto et qui se déplacent très rapidement et qui font leurs actions à 31 heures de temps au maximum. Le temps que les forces ne soient informées, ils ont déjà quitté. C'est vraiment un problème pour nous et aujourd'hui, la zone à Kamla Piscose est très grande chez nous et les gens, en se déplaçant, vraiment, ils ont la main sur le cœur, comme on dit.
La compagnie de transport dont le bus a été attaqué et incendié a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les départs vers le Burkina Faso. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le festival interculturel du cirque se tient cette semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après une précédente édition très réduite l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, présenté comme le plus grand festival de cirque d'Afrique de l'Ouest, l'événement rassemble des artistes de toute l'Afrique et d'ailleurs. Un reportage d'Henry Wilkins, relaté par Yacouba Ouedraogo.
L'Afrique de l'Ouest recommence à s'ouvrir au monde. Alors que les restrictions de voyage liées au Covid-19 sont levées, les événements culturels comme le Festival interculturel du cirque d'Abidjan, en abrégé RICA, reviennent. Le festival a eu lieu l'année dernière, mais à petite échelle, à cause du Covid-19. La fondatrice du RICA, Chantal Djedjé, affirme que le Covid-19 a rendu l'organisation du festival très difficile.
L'année d'après, on a voulu quand même garder le festival. Donc on a fait un tout petit festival l'année dernière avec très peu de compagnies, que des compagnies de la sous-région Guinée-Burkina, pas trop loin. Et puis cette année, le festival reprend un peu des couleurs puisqu'on a 9 compagnies, 57 artistes qui viennent de beaucoup de pays différents.
Cette année, le RICA accueille des artistes libanais, français, marocains, guinéens, ainsi qu'une troupe d'acrobates du nom d'Atoufa, originaire du Burkina Faso. Le directeur artistique d'Atoufa, Maouzou Tania, dit avoir rencontré plein d'obstacles avant de devenir artiste de cirque.
J'ai pris le courage aussi d'apprendre cette initiative parce que mes parents me détestaient parce que à cause de cet effort et sport, en fait. Voilà. Parce que j'ai pris le courage. Sinon, en l'air, là, j'étais au village. Parce qu'ils voulaient m'envoyer même au village pour rester là-bas. Voilà, parce que pour que de ne plus faire ça, en fait. Voilà, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. J'ai eu à développer les choses aussi.
La prestation d'Atoufa reflète la guerre en cours au Burkina Faso contre les groupes terroristes armés, explique le directeur artistique Maouzou Tania.
Vraiment, ce n'est pas du tout facile, mais de toute façon, s'il y a la guerre sur nous au pays, tu te sens directement parce qu'il y a des informations que tu peux avoir ça dans les réseaux sociaux. Et exact aussi, ça se passe chaque fois aussi à la télé pour dire qu'il y a la guerre ici, il y a la guerre ici.
Considéré comme le plus grand du genre en Afrique de l'Ouest, ce festival contribue à promouvoir les artistes de cirque africains à l'échelle internationale. Chantal Djedjé, fondatrice du RICA.
Il y a beaucoup de circassiens du continent qui sont au Cirque du Soleil. Et maintenant, eux, ils ont envie de revenir sur le continent. Ils ont envie de revenir et de faire un cirque qui est plus de leur identité, qui soit lié aux traditions africaines aussi.
Le festival se déroule alors que certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, abandonne les tests Covid-19 obligatoires pour les voyageurs arrivant qui sont entièrement vaccinés.
C'est la fin de cette édition. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.